Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Journée marathon pour le Premier ministre Jean Castex, venu faire le service après-vente des annonces présidentielles d'hier soir à l'Assemblée, puis au Sénat. Débat plus vote, largement boycotté par les oppositions qui se rebiffent. Elles se sentent piétinées, humiliées, méprisées. Et ça, ça a fâché Jean Castex.
Je ne vois pas en quoi les droits du Parlement seraient amoindris parce que je viens lui faire se prononcer et approuver des décisions qui relèvent du pouvoir exécutif au terme d'un ordre constitutionnel.
Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux qui ont répondu vertement au Premier ministre. Il sera l'invité d'RTL Soir dans un quart d'heure à 18h15. Jean-Luc Mélenchon qui répondra aussi à vos questions. Alors n'hésitez pas, soit sur l'application et les réseaux sociaux d'RTL, soit en nous appelant au 3210. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Voici avec vous les autres grands titres de ce jeudi 1er avril.
Et à la une ce soir, le système D qui fonctionne à plein régime, garde d'enfants, réorganisation des vacances. On vous dira concrètement à quoi vous avez droit et surtout comment ce sera dans un instant. Dans journal également les larmes de certains commerçants. Ils pensaient lancer ce week-end la saison d'été. Ils seront finalement fermés. Et puis c'est la reine des classiques cyclistes. Le Paris-Roubaix est finalement reporté au mois d'octobre prochain.
La météo, bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors demain il fait encore beau, oui. Mais attention, ça se rafraîchit au nord notamment.
Et ça se rafraîchit bien, on peut perdre 6 à 10 degrés demain après-midi sur les régions au nord de la Loire, mais on reste sur des températures proches des normales de saison. Plus que 13 à Caen, 15 à Rouen, 16 à Paris, 10 de moins qu'aujourd'hui et de 22 à 26 au sud. Alors, une journée très ensoleillée après dissipation de quelques grisailles matinales, un ciel plus voilé dans le sud-ouest et plus menaçant sur les Pyrénées avec une averse possible.
Merci Peggy.
RTL Soir.
À 24 heures de la fermeture des écoles, c'est donc la course ce soir pour bien des parents. Que faire des enfants à partir de mardi prochain? La question se pose dans toutes les familles ou presque. Et c'est d'autant plus compliqué pour celles de la zone B. Elles étaient censées être en vacances à partir du 26 avril au moment où les enfants finalement reprendront tous l'école. À Metz par exemple, la famille Maurice a dû revoir tous ses plans, Dimitri Ramelot.
Oui, dès l'annonce de la fermeture des écoles hier soir par Emmanuel Macron.
Écœurée, dégoûtée, triste aussi.
Et Nadia, dès l'intervention terminée, d'essayer d'annuler à moindre frais toutes les vacances familiales.
J'ai tout de suite été sur le site de la SNCF pour annuler les billets de train, donc 188 euros, donc bon, je suis un peu soulagée. Pour la voiture, j'ai réussi à annuler aussi à 162 euros. Par contre, la maison à 500 euros, j'attends toujours pour voir si je peux me faire rembourser.
Et les prochaines vacances hors de la maison sont donc repoussé à cet été pour cette enseignante de collège. Son mari Mathias, cadre dans l'hôtellerie, espère trouver un arrangement pour les 2 semaines de congé qu'il avait obtenu fin avril, début mai.
J'aimerais demander à mon employeur s'il y a une possibilité du coup de décaler les vacances ou de les annuler. L'idée, ce serait de reprendre des vacances en même temps que tout le monde. J'imagine que mes collègues vont demander la même chose. Donc j'espère que ça va être accepté. Ça me permettrait de rester à la maison avec tout le monde, même si du coup on part pas.
Et les prix ne seront plus les mêmes cet été pour la Vendée.
Voilà, adieu l'océan, la plage, le soleil.
Les vacances se feront probablement chez les grands-parents déjà très sollicité pour garder les enfants depuis le début de la crise sanitaire.
Dimitri Ramelot à Metz pour RTL. Bonsoir Éric Vanier.
Bonsoir.
On vient d'entendre ce papa qui explique qu'il va essayer de changer les dates de ses vacances. Est-ce que c'est possible ça?
Ah bah en théorie non, car le code du travail dit qu'on ne peut pas toucher à des périodes de congé dans les 4 semaines qui précèdent. Donc son patron est dans son droit s'il refuse de modifier ses dates de vacances. Maintenant, comme dans la plupart des entreprises, ça va sans doute se passer autrement, en discutant pour trouver un accord à l'amiable qui ne pénalise ni le salarié, ni le bon fonctionnement de la société.
Mais Eric, alors pour ceux qui travaillent cette fois, pas de congé de garde d'enfants, hein, comme lors du premier confinement?
Non, mais la possibilité pour garder ses enfants de moins de 16 ans à la maison de passer en chômage partiel, rémunéré donc à 84% du salaire net. Attention, sous certaines conditions quand même, que le télétravail soit impossible pour vous, que votre conjoint ne puisse pas non plus télétravailler. Bref, l'activité partielle en tout dernier recours. Et encore, là aussi, il vous faudra le feu vert de votre entreprise. Sinon, c'est vers les grands-parents, des amis, des voisins ou une babysitter qu'il faudra vous tourner pour vous en sortir.
Éric Vanier du service Éco de RTL, merci à vous. C'était très clair et concret. Pour les parents qui le souhaitent, j'ajoute qu'il sera possible de faire des allers-retours au-delà des 10 km pour déposer ses enfants chez les grands-parents ou chez des proches. Jean Castex l'a expliqué ce matin à l'Assemblée. Le Premier ministre, très très agacé, c'est le moins qu'on puisse dire, par les critiques de l'opposition. On a eu un petit aperçu tout à l'heure, Thomas. Autre extrait.
Ces motifs incluront évidemment les déplacements professionnels, mais aussi ceux liés à un motif familial, comme par exemple accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche.
Alors, c'était pas tout
à fait
le bon son.
Il
nous confirmait qu'on pouvait aller chercher ses enfants. Bon, on a entendu tout à l'heure. On le reentendra peut-être plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet après-midi, le Premier ministre était au Sénat. Ambiance moins survoltée donc que le matin à l'Assemblée. Mais l'opposition est tout aussi remontée, Jacques Serey.
Oui, fait inédit, les sénateurs des oppositions de gauche comme de droite se sont rassemblés tout à l'heure, ont donné une conférence de presse commune pour vilipender l'exécutif et justifier leur démarche. En effet, 6 des 8 groupes politiques présents au Sénat ont tout simplement boycotté le vote proposé par le Premier ministre. Un scrutin inutile pour Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains.
Le président de la République aurait parlé ce soir. On aurait pu dire, bon, il a peut-être écouté les débats, il va peut-être en tirer des conclusions et intervenir. Mais nous faire voter le lendemain de son intervention, démocratiquement, ça n'a aucun sens.
À la tribune, ils sont plusieurs, comme le sénateur centriste UDI Hervé Marseille, à s'en prendre au processus de décision.
Vous avez parlé ce matin, vous avez dit la démocratie, c'est la transparence. Est-ce que vous croyez franchement que le Conseil de défense est un exemple de transparence ?
Une verticalité du pouvoir qui est aussi pilonnée par Patrick Kanner du groupe socialiste.
Cela fait des mois que nous vous demandons plus de clarté, plus de démocratie sanitaire. Cela fait des mois que vous prenez les chambres parlementaires pour un paillasson au service de la doxa élyséenne.
Situation que même Gérard Larcher a dénoncée ce matin dans la presse. Le président du Sénat qui a fustigé la République de l'oracle. Dans cet hémicycle plus habitué au combat politique à fleur et moucheté, cette fronde unanime de l'opposition restera peut-être dans les annales.
Jacques Serey au Sénat pour RTL et on apprend à l'instant que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est sortie de l'hôpital où elle avait été admise. Vous en souvenez sans doute il y a quelques jours pour des complications liées au Covid. Elle est sortie de l'hôpital et entame une période de convalescence. C'est ce qu'indique son entourage à l'agence France Presse.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Des restrictions nouvelles difficiles à accepter également pour les commerçants qui vont être contraints de baisser leurs rideaux samedi.
Illustration à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée où beaucoup comptait sur les vacances qui étaient censées avoir lieu, Patrice Gabin.
Oui, d'ailleurs, Émilie, qui tient une boutique de bijoux fantaisie, la Féerie des Perles, avoue avoir craqué ce matin derrière sa caisse.
On est fatigué, dégoûté. On ne comprend pas les mesures, en fait. La saison a démarré aujourd'hui. On vient de signer des contrats de travail pour 6 mois. On passe à côté du printemps, là. Donc, c'est très, très, très dur à encaisser. C'est le coup de trop, en fait. Fallait faire quelque chose avant, quoi. Fallait pas attendre qu'il fasse beau et que les gens soient en vacances et qu'on puisse enfin travailler, quoi.
Car le week-end de Pâques et les vacances d'avril, c'est vraiment le coup d'envoi de la saison dans cette rue piétonne, la deuxième rue commerçante de Vendée. Nicole, employée de Mon Décor, un magasin de souvenirs et d'objets de décoration.
Nous sommes très tristes parce que c'est vrai qu'on est à une époque où il y a des touristes quand même. On leur laisse le droit, en fait, de venir en week-end de Pâques sur nos stations et tout ça. Et nous, on nous oblige à fermer samedi soir. Donc ça, c'est regrettable. Si c'est un mal pour un bien, pourquoi pas? Après, effectivement, c'est très regrettable dans les régions qui sont pas très touchées.
Une fermeture d'autant plus difficile à digérer que la plupart des commerçants viennent tout juste de recevoir leur stock printemps-été et bien sûr les factures qui vont avec.
À Saint-Gilles-Croix-de-Ville, le reportage de Patrice Gabart pour RTL.
On marque une pause dans un instant, une histoire mystérieuse. Une femme tuée à coups de couteau, on l'a retrouvée dans le Val d'Oise et personne ne sait pour l'instant de qui il s'agit.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h12, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé hier à Arnouville-les-Gonesse dans le Val-d'Oise. Et pour le reste, c'est le mystère absolu.
Oui, les enquêteurs n'ont aucune piste. Ils ne savent même pas de qui il s'agit, Guillaume Chiez.
Oui, pour le moment, ce corps reste une énigme entre les mains des enquêteurs de la PJ de Versailles. C'est un promeneur qui a retrouvé la dépouille de la jeune femme hier à la mi-journée. Elle était lardée de coups de couteau et égorgée, abandonnée au pied d'un arbre au milieu d'un champ. Sur elle, aucun papier d'identité, aucun signe distinctif. Et les enquêteurs peinent même à lui donner un âge. Ils estiment qu'elle a entre 16 et 25 ans. Et les policiers ont également tenté de faire le lien avec d'autres personnes disparues dans le département. Mais rien ne correspond pour le moment. Rien non plus sur le ou les auteurs des coups mortels. Il y avait beaucoup de sang sur place, mais aucune arme n'a été retrouvée à proximité du corps. Une autopsie est en cours et si aucun nouvel élément n'apparaît dans ce dossier, le parquet de Pontoise pourrait lancer un appel à témoins afin d'identifier cette jeune femme anonyme.
Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Près d'Albi, 3 mois et demi après la disparition de Delphine Jubilard, plusieurs de ses proches ont organisé aujourd'hui une nouvelle battue. Une trentaine d'anonymes ont répondu à cet appel qui avait été lancé sur les réseaux sociaux par l'une des amies de la mère de famille. Ils ont ratissé les bois autour de Cagnac-les-Mines.
Si jamais vous trouvez quelque chose, on ne touche pas et le 17.
Les réseaux sociaux, il faut bien que ça serve à ça, pour faire appel au maximum de personnes. Plus on sera, mieux c'est. Puis, on ne peut pas laisser ses enfants comme ça. C'est une maman poule, donc pour moi, elle n'est pas partie d'elle-même, ça c'est sûr et certain. On n'arrêtera pas tant qu'on ne la retrouvera pas.
Émile, l'une des amies de Delphine Jubilard, qui a donc décidé d'organiser ses battues tous les jeudis matins. Des propos recueillis pour RTL par Patrick Tégéraud.
Les sports, et on le pressentait, c'est malheureusement confirmé ce soir, Paris-Roubaix n'aura pas lieu, en tout cas pas à la date prévue.
La reine des courses pavées reportée au mois d'octobre, troisième des programmations en un an. L'an dernier, souvenez-vous, elle avait déjà été reportée, puis annulé. Écoutez, Christian Prudhomme, le patron de la course.
Nous prenons acte, bien sûr, de la décision de la préfecture du Nord et on préfère aujourd'hui se projeter naturellement vers le début du mois d'octobre. Et un Paris-Roubaix qui aura mis 900 jours avant de revenir, mais qui reviendra avec un week-end complet, la première édition de la course féminine, le samedi 2 octobre, et ensuite l'édition masculine qui existe depuis 1896. Quand vous allez au bout du monde, on vous parle de deux courses cyclistes, le Tour de France et Paris-Roubaix. Et comme on dit dans les Hauts-de-France, Paris-Roubaix, c'est notre Tour de France à nous. Donc il y a une vraie fierté pour cette course. Il y a un vrai sentiment d'appartenance. Donc oui, pour nous, c'est absolument indispensable. On ne peut pas imaginer une deuxième année sans Paris-Roubaix. Et c'est ce que pensent, comme nous d'ailleurs, les élus qui ont été nombreux à soutenir la course et à montrer tout leur amour pour cette épreuve. Et
Christian Prudhomme au micro RTL de Nicolas Georgerot. La bonne nouvelle ?
Oui, ah bah oui. Ah bah c'est bon.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec un cocorico, c'est en France, Thomas, qu'il a fait le plus chaud aujourd'hui en Europe.
Et ouais, hein ?
Ouais, le plus chaud en Europe. 29,5 degrés à Cambo-les-Bains, c'est au Pays Basque. Pas mal aussi à Brest, où il faisait 27,6 degrés cet après-midi.
27 degrés 6 à Brest.
Même en plein été, on n'y arrive pas. C'est 15 degrés au-dessus des valeurs de saison. Écoutez, Steven Tual, météorologue à Météo Bretagne.
Le 1er avril, il y a pas mal de gens qui ont pris ça pour une blague. Mais non, il a bien fait 27 degrés aujourd'hui du côté de Brest. Et même à Ouessant, il a fait 21 degrés. Et ça, c'est très peu commun. Et lundi prochain, il y a une bascule vers l'hiver où on va perdre entre aujourd'hui et mardi prochain jusqu'à 20 degrés localement. On pourrait même avoir quelques flocons de neige mardi. Si, c'est vrai. Si, si. Près des côtes de la Manche, donc peut-être même à Brest. On va passer de l'été à l'hiver.
Voilà, et c'est pas du tout un poisson d'avril.
Si, c'est vrai. Si, si, c'est vrai, je vous assure. Moi, je viens de me faire avoir par un poisson d'avril. Bravo à Deliveroo. Hein. J'ai reçu un mail à l'instant pendant le journal qui me disait qu'on me livrait 38 pizzas aux anchois et 50 sauces piquantes pour 466 euros. J'étais en panique complet pendant le journal d'Amandine.
Qui a commandé à ma place tout
et
ça.
J'ai mordu à l'hameçon totalement. Voilà. Voilà. Merci
mais
de.
Pas mal.
J'aime pas les anchois. Merci à vous, Amandine. Il a répondu à Jean Castex tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale. Il est candidat à la présidentielle tout de suite. Jean-Luc Mélenchon est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, candidat à la présidentielle de 2022. Il est aussi député des Bouches-du-Rhône. Jean-Luc Mélenchon est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jean-Luc Mélenchon.
Bonsoir.
Il y avait ce matin une déclaration du Premier ministre suivie d'une intervention des chefs de groupe, puis d'un vote sur les nouvelles mesures anti-Covid à l'Assemblée. Vous y avez donc pris la parole.
Cette réunion est une honte pour le Parlement français. Elle ne sert à rien. Elle n'aura aucune conséquence. Tout est décidé et nous ne sommes invités qu'à venir vous acclamer.
Les mots sont forts, une honte pour le Parlement, avez-vous dit. Pourquoi, Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, pour des raisons claires, nettes et précises, nous sommes convoqués de la veille pour le lendemain. Dans aucun pays du monde, on ne fait ça, sauf s'il y a une déclaration de guerre. Et comme vous le savez, en France, on n'est jamais convoqué, même quand il y a la guerre. Mais là, nous sommes convoqués du jour pour le lendemain. Le soir, le président de la République annonce toutes les mesures. Donc, voilà, c'est fait. On n'imagine pas qu'ils reviennent le lendemain pour dire finalement j'ai changé d'avis. Et on nous appelle, c'est un article de la Constitution, 50-1, excusez, ça fait un peu pédant de vous citer un article de la Constitution. Donc le Premier ministre fait une déclaration. Qu'est-ce qu'il y a dans sa déclaration ? Ce qu'a dit le Président. Vous me direz, c'est normal. Mais d'accord, mais alors pourquoi on nous réunit ? Parce que nous ne pouvons rien discuter, nous ne pouvons pas amender le plan du Président de la République. Et nous sommes donc juste appelés à dire oui ou non. Mais supposez un instant que nous disions tous non, eh bien ça ne changerait rien, car la responsabilité du gouvernement n'est pas engagée par ce vote.
Ça créerait quand même une situation politique intéressante, en tout cas il se serait passé quelque chose. Si tout le monde, si une majorité de députés avait dit non ce matin, ou de sénateurs cet après-midi, le gouvernement n'aurait pas pu faire comme si ça n'existait
peut-être
pas.
Peut-être bien, mais pardon, vous me posez la question de savoir pourquoi j'ai dit que c'était une honte, parce que nous Français, chaque jour qui passe, aux yeux du monde, nous sommes un peu plus ridicules. Parce que nous ne vaccinons pas, parce que c'est la pagaille, parce qu'on réunit notre Parlement pour rien. Et ce matin, encore une fois, il s'est passé un événement politique, me semble-t-il, majeur. Toutes les oppositions, il y a 8 groupes à l'Assemblée nationale, donc 6 sur les 8 groupes qui existent, ont refusé de voter. C'est un fait sans précédent de dire, écoutez, on vous laisse décider puisque de toute façon, il n'y a rien à décider. Et on a l'impression que même ça, c'est devenu banal. Autrement dit, la gravité du moment politique n'est même pas prise en compte. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se faire entendre? Parce que nous, quand on revient comme députés devant les gens nous disent « Mais alors, vous avez été d'accord avec ça? Vous êtes d'accord pour fermer les écoles après nous avoir dit que ça craignait rien d'aller à l'école? Vous êtes d'accord pour que rentrent les petits en primaire et puis ceux du collège ne rentreront pas quand on va sortir de la période de confinement ?» Bon, bref, les gens pensent que nous sommes coupables parce que nous avons dit oui. Et j'ajoute que pour nous, il y avait un motif d'exaspération supplémentaire, c'est qu'il y a eu plein de mesures de prise et jamais le Parlement n'est consulté.
Elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes, ces mesures qui ont été prises?
Mais
si vous les validez ou vous validez pas?
La question n'a plus de sens aujourd'hui.
Bah quand même.
Bah écoutez, bien sûr que non. La situation est devenue ce qu'elle est devenue à cause des décisions qui ont été prises précédemment et pour lesquelles on m'a déjà dit « Alors, vous êtes d'accord ?» Et à chaque fois, j'ai dit « Non, il faudrait faire comme ci ou comme ça. » Tout le monde s'en fout. Le pouvoir nous rit au nez. Quand même, quand on lui a annoncé qu'il y avait une deuxième vague, je me suis fait rire au nez. Quand on leur a expliqué qu'il y avait un problème majeur avec les étudiants en juin dernier, ils nous ont ri au nez. Quand j'ai parlé du vaccin russe pour aller à quelque chose qui est un peu piquant, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur le thème, mais parce que c'est idéologique, il a fallu que je rappelle qu'il n'y avait plus de communistes en Russie depuis 1989, donc c'est pas le sujet. On ne vient pas mettre de l'idéologie là-dedans.
Et le vaccin russe, on y reviendra tout à l'heure, si
bon,
vous voulez
bien. D'accord, mais c'est une question qui est grave, parce que le président de la République, c'est depuis le mois de novembre dernier, et il l'a dit, qu'une mission française y a été, a dit, ce vaccin fonctionne, 57 pays aujourd'hui utilisent ce vaccin et se tirent d'affaires, et nous, Français, nous attendons le label de la Commission européenne qui dit elle-même, oh là là,
il faudrait,
fin juin, nous
il faudrait
prêts.
S'asseoir dessus, il ne faudrait pas respecter les mêmes
bien
règles
sûr.
Avec ce vaccin-là qu'avec les autres,
absolument.
Parce que les autres ont été validés, que ce soit Moderna, Pfizer, AstraZeneca,
voilà.
Ils ont été validés par l'Agence européenne du médicament.
Voilà. Eh bien, c'est une erreur totale que de faire passer ce formalisme bureaucratique. Parce que, avant l'intérêt général...
Ce n'est pas dangereux pour la population de vacciner
voilà.
avec...
Mais je comprends la question et je l'accepte. Mais 57 pays l'utilisent. Donc vous pensez qu'il y a 57 gouvernements d'irresponsables et de fous qui... Non. C'est du business, rien d'autre.
Parce que Clément Beaune, par exemple, le ministre des Affaires européennes, a dit aujourd'hui attention, parce que Moscou utilise ce vaccin comme une arme de propagande sur la scène internationale.
Et
en plus, ils ne sont pas capables de produire les doses qu'on pourrait leur commander.
Ah là là, c'est ça. Donc, on ne leur commande pas parce qu'ils ne seraient pas capables de les produire.
Non, pour l'instant, on ne le commande pas. Enfin, ce qu'ils disent, on ne le commande pas parce qu'il
n'a
pas l'agrément.
Voilà, je trouve que ça, c'est un concentré d'hypocrisie et de sottise. Alors donc, on reproche aux Russes d'avoir fait un vaccin et de briller parce qu'ils, vous avez vu, nous, on a un vaccin. Je vous signale que les Cubains ont été capables d'en faire un. Et nous, Français, on n'est plus capables de rien. On a donné des milliards de crédit impôt recherche, notamment à Sanofi, et à la fin, ils ne savent même pas faire des masques en tissu. Bon. Et nous venons faire la leçon aux autres en disant « Vous faites les fiers, mais c'est normal que les Russes soient fiers de leur vaccin, comme le sont les Cubains, comme le sont les Chinois, comme le sont les Américains, parce que le vaccin américain, ce n'est pas un moyen d'empire, un moyen... » Bien sûr que oui.
Mais c'est un vaccin, pardon, mais qui a été, encore une fois, qui a suivi ce processus, avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais qui a suivi ce processus de validation par l'Agence européenne du médicament. Et d'ailleurs, quand il y a eu un problème sur AstraZeneca
d'accord.
il y a quelques semaines...
Bon, écoutez, ai dit ce que j'avais à dire. Non, vous avez le droit de dire que les vaccins anglo-saxons sont parfaits même quand il n'y en a pas, et que les vaccins russes dont on aurait bien besoin...
Mon avis importe peu. Mon avis importe peu.
Qu'est-ce que vous faites, là?
Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a des procédures qui font qu'à un moment, quand il y a un doute sur un vaccin, même AstraZeneca, il a été suspendu quand il y a eu les cas de thrombose pendant
quelques
jours.
Ça a été une réussite formidable, puisqu'après, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai.
Donc vous dites que c'est une décision politique?
C'est une décision politique qui est destinée à favoriser le business des grands groupes de pharma multinationales qui gagnent des milliards dans cette histoire et qui n'ont pas envie de voir arriver un concurrent qui vient de Russie. Point final. Parce que le vaccin russe, il n'est pas plus communiste que poutinien, que tout ce que vous voulez. La seule question qu'on lui pose, c'est est-ce qu'il est efficace ou pas? 57 pays dans le monde l'utilisent. Je prends l'exemple russe, mais j'aurais pu prendre l'exemple chinois tout de même, ou dire, écoutez, courons vite demander poliment aux Cubains s'ils veulent bien nous en donner, parce qu'eux, ils n'ont pas produit un vaccin, ils en produisent trois. Et c'est le New York Times d'aujourd'hui qui dit que c'est un exploit scientifique. Donc, il n'est pas vrai que nous n'ayons pas les moyens de faire des campagnes de vaccination de masse. La France vaccinait autrefois, j'en ai encore la marque sur mon épaule, c'était le BCG. On y passait tous. Mmh. En une semaine, toute une génération scolarisée était vaccinée.
Donc si on en est là aujourd'hui avec ce retard en France, c'est pour des raisons politiques.
Absolument, et que politiques. Alors, d'abord sur le vaccin, mais également, par exemple, quand M. Blanquer a dit un coup, ah bah ça craint rien d'aller à l'école, les enfants ne se contaminent pas. Mmh. Ah ben si, quand même, ils se contaminent. S'il y en a un qui est contaminé, on ferme la classe. Après, il dit, non, s'il y en a trois de contaminés, on peut. Et puis, tout d'un coup, il s'est rendu compte que trois, ça voulait dire que tout le monde était contaminé. À nouveau, on est revenu à un. Maintenant, on ferme tout. Est-ce que vous avez entendu parler, dans une seule école de France, d'un purificateur d'air? Cette machine existe. Elle tue 92% de tout ce qui est en suspension dans l'air et qui est vivant. On les produit en France. Si nous avions été en guerre, on aurait produit des balles et des fusils, nuit et jour. Et là, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ces purificateurs d'air et de les mettre dans toutes les salles de cours? C'est ce qu'ont fait les Allemands. Ils en ont mis partout. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que M. Macron a espéré, en croisant les doigts, qu'il est attend les vaccins pour rattraper la courbe d'explosion de la contamination. Et comme il s'est trompé, parce qu'il n'a rien fait pour les vaccins, qu'il n'y a pas de vaccin français, et qu'il attend que l'Europe lui donne le droit qu'on nous soigne, eh bien nous voici maintenant dans une situation désespérée.
Il y a un point sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est que l'éclaircie viendra avec les vaccins, quels qu'ils soient. Et sur le sujet, c'est vrai qu'on a un gros problème, c'est que l'Europe n'a pas su gérer ni les commandes ni les stocks. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a même dénoncé aujourd'hui la lenteur inacceptable de la vaccination contre le Covid en Europe. Qu'est-ce qu'il faudrait changer au-delà de ce que vous avez dit sur le
bah déjà sur le ça. D'abord qu'on arrête ces tergiversations grotesques. Nous sommes fin mars, n'est-ce pas, 1er avril. Bon, on nous annonce que les autorisations de toutes sortes seront prêtes en juin. Après, il ne restera plus qu'à passer des commandes. Et le commentateur de la Commission européenne a eu l'écœurante franchise de dire « Oh, ben, de toute façon, à ce moment-là, il y aura assez de doses qui arriveront des États-Unis, on n'en aura plus besoin. »
Donc, ça, c'est Clément Beaune.
Pardon ?
C'est Clément Beaune qui a dit ça.
Bon, alors de mieux en mieux. Je savais pas, je croyais que c'est le gars de la Commission européenne. Je ne savais même pas que c'était un ministre français qui a dit ça. C'est une honte. Bon, donc, que faut-il faire ? Puisque nous allons être à nouveau confinés. Eh bien, c'est le moment de prendre les mesures d'urgence pour préparer le déconfinement. Donc, il nous faut des purificateurs d'air en grande quantité. Il nous faut organiser le dédoublement des classes. Il nous faut recruter 100 000 peut-être, assistants d'éducation pour aider les profs et rattraper. Alors, à laquelle...
Et ça prend du temps.
Mais non, ça prend pas de temps. Nous avons des dizaines de milliers d'étudiants qui n'ont plus de petits jobs, qui n'ont plus aucun revenu, qu'on pourrait immédiatement mobiliser. On peut trouver partout les grands espaces, gymnases et autres, que sais-je, des grandes salles pour y faire les études surveillées. Or, c'est une affaire d'organisation.
En tout cas, vous dites qu'il ne faut pas arrêter l'école, il ne faut pas arrêter les cours.
J'ai pas dit ça. Je vous dis qu'au point où nous en sommes rendus, ils ont décidé d'arrêter les cours. Comment voulez-vous, Monsieur Soto, que je vous dise les yeux dans les yeux? Moi, je sais qu'on doit garder les écoles ouvertes. Mmh. Je dis seulement que ce qui est décidé est une suite d'absurdités, et de l'une à l'autre. Alors là, bon, ils ont reconfiné. Écoutez, la vie concrète, banale, toute bête. Le président de la République a dit, les gosses du primaire iront à l'école. Bon, très bien. On ne pose pas la question de savoir pourquoi ceux-là et pas les autres. Ceux du collège resteront à la maison. Eh bien, Monsieur Soto, la plupart des Français espacent leurs enfants d'un an, disons un an ou deux ans. Mm-hmm. Donc tout le monde, quand c'est le moment d'avoir des gosses, vous en avez. Il y a un moment où il y en a un qui est à l'école primaire et l'autre qui est au collège. Mm-hmm. C'est déjà assez compliqué à organiser. Pardon, mais à ce moment-là, vous allez faire quoi si vous êtes parents? Comment vous organisez la garde de celui qui reste à la maison? Et est-ce que vous savez que dans des milliers de familles, il n'y a qu'un ordinateur pour la famille? Des fois, il y en a zéro. Comment voulez-vous suivre les cours? Nous allons donc avoir des dizaines de milliers de décrocheurs invisibles, c'est-à-dire qui vont rater le niveau. Il faudra donc rattraper. Voilà pourquoi les jeunes gens que l'on pourrait commencer à embaucher maintenant et à immédiatement organiser pour faire face à ces tâches devraient être recrutés. J'ai pris ces deux exemples, je pourrais multiplier par exemple. Vous êtes parisien, vous êtes en région parisienne. Moi, j'y suis la moitié de la semaine. Tous les jours, c'est la cohue dans le métro. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas décalé les horaires de prise du travail. Donc vous avez là la possibilité d'un foyer d'infection, et dans le même temps, on dit aux gens, ah ben non, allez pas au spectacle, ah ben non, allez pas dans les commerces, etc. Ça, tout ça n'est pas organisé, c'est pas maîtrisé. Alors, comme une grande bataille collective.
Jean-Luc Mélenchon, ce matin, dans votre discours à l'Assemblée, vous avez cité la chienlit, hein, référence gaullienne, évidemment. Il y a un autre gaulliste, Jacques Chirac, qui disait toujours, un chef, c'est fait pour cheffer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de chef, il y a un problème avec la verticalité d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les oppositions.
Ouais, c'est des grands mots tout ça. Vous avez un homme qui décide tout seul, vous pouvez parfaitement être celui qui a un très grand pouvoir, et vous êtes assez lucide pour comprendre que certaines tâches doivent être confiées à des groupes un peu plus vastes que votre propre personne. Lui, il est tout seul avec son conseil de défense. J'ai pointé ça le premier, donc j'y reviens. Il décide sous le sceau du secret, parce que sinon, c'est pas la peine de faire un conseil de défense. Des fois, le gouvernement lui-même apprend à la télévision les décisions qui ont été prises par ce conseil de défense. Cet homme se croit comme, en quelque sorte, comme une sorte de génie. Moi, je ne ferais pas comme ça.
Vous ne seriez pas un président vertical, vous ?
Pour certains sujets, oui. Pour les questions de politique internationale, pour les questions de défense et d'armée, sans doute.
Parce qu'en période de crise, c'est un peu la nature de la Ve République qui fait que le chef de l'État...
Mais je vais vous donner des exemples célèbres dans l'histoire. La guerre de 14. Pendant toute la durée de la guerre de 14, il y a eu un comité parlementaire qui discutait de la stratégie. Le tout est de doser les choses. On devait avoir un débat à l'Assemblée sur les stratégies de lutte contre les pandémies. Au dernier moment, ils ont retiré le texte. On a donc perdu 4 mois pendant lesquels on n'a pas pu discuter. Si je gouvernais le pays, je m'y prendrais de la manière suivante. Il y a un conseil scientifique, mais il faut faire confiance aux assemblées. Dans les deux assemblées, nous avons une commission des affaires sociales dont c'est le boulot de s'occuper de ces questions. On pourrait créer une commission spéciale, mais une commission qui fasse des propositions, qui passera en plénière, et tout au long de la crise, nous aurions une gestion collective. Quelle est la difficulté avec la gestion collective ? Non, il n'y en a pas. Et puis, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, c'est une vieille règle. Et quand les choses vont si mal, on a besoin de gens, si vous voulez, lui dans son palais, je ne lui en fais pas le reproche, parce qu'on peut dire que moi aussi je m'isole d'une certaine manière, mais on perd le contact avec la réalité quotidienne. Les députés, ils n'ont pas le choix, eux, hein, les sénateurs, parce que les gens viennent dans les permanences, téléphonent, etc., et tout d'un coup, vous prenez la mesure des problèmes. Avant-hier, j'ai passé un long moment avec un de mes camarades qui s'occupe de rattrapage scolaire dans les cités, c'est lui qui m'a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que chaque fois que vous reconfinez, eh bien ça veut dire que vous avez des dizaines de gosses dans des appartements surpeuplés qui sont hors d'état de suivre quelque étude que ce soit parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Ah, dis-je, alors il n'y a pas d'ordinateur.
C'est la raison
alors,
pour laquelle Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'il voulait réduire au maximum les périodes où l'école n'a pas lieu. Jean Castex, il entend tout ce que vous dites pourquoi il ment ?
Ben parce qu'il dit je vais réduire le temps où il n'y a pas d'école, mais peut-être bien, mais il y a des centaines de professeurs.
De fait, il a quand même résisté à la pression sur la fermeture des écoles depuis longtemps.
Mais c'est lamentable de parler comme ça. La pression pour la fermeture des écoles,
notamment de l'association de parents d'élèves.
Que veulent les gens ? Oui, les parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'on mette pas les gosses en danger, qu'on mette pas les profs en danger. Donc c'est pas la pression d'irresponsables. Les uns sont pour fermer les écoles, les autres sont pour les ouvrir, les uns sont pour les chapeaux pointus et les autres pour les chapeaux plats. Il s'agit de la vie de nos gosses et il s'agit des personnels d'éducation. Donc que disons-nous à Monsieur Blanquer ? Ça suffit cette posture héroïque. J'ai résisté à la pression. Quand vous avez des classes avec 32, 40 gamins et que vous leur donnez pour unique consigne ouvrez les fenêtres de temps à autre quand on pèle de froid, eh bien moi je dis c'est irresponsable.
Jean Castex, il dit vous, les oppositions, vous cherchez à tirer des avantages politiques d'un drame national. Voilà ce qu'il vous reproche. Il l'a dit ce matin.
Je réponds pas, c'est de la vulgarité de M. Blanquer habituelle.
C'est le Premier ministre.
Castex a dit ça ?
Oui, il a dit ça.
Ah ben, de toute façon, quoi qu'ils disent, on a l'impression que c'est le garde champêtre qui arrive. Alors, il est plus brave que ça, vous voyez, monsieur Castex. On tire des avantages, mais s'il vous plaît, enfin, ils ont tous pris cette mentalité, la start-up nation, alors ils vendent des caleçons ou des castagnettes, et c'est pareil pour eux. Non, on s'occupe de notre pays, on donne notre avis. Il n'y a pas d'élection avant le mois de juin, elles sont régionales, les questions dont nous débattons ne sont pas posées. Alors qu'est-ce qu'il voudrait, M. Castex ? Qu'on vienne en cortège dire bravo, youpi, continuez, quelle trouvaille. Non, ces gens nous ont amenés à un désastre sanitaire. Demandez, M. Soto, sans doute ça doit remonter aussi jusqu'à vous comme homme, comme citoyen, dans votre vie de père de famille. Vous devez entendre la clameur qui vient du pays, des gens disent, assez, c'est une pagaille incroyable. Et maintenant, personne n'est sûr n'est convaincu, c'est ça le problème que nous avons dans une démocratie, l'ordre et la discipline ne sont respectés que si on y consent. Pour y consentir, il faut que le pouvoir, ait mis les attentions qu'il fallait pour ça. Vous savez bien que ça n'y est pas. S'il y a eu un carnaval dans la rue à Marseille, il est traditionnel, avec 6000 personnes, 6500, il y a mieux à faire que de leur montrer du doigt et les engueuler. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils disent. Les cultureux qui occupent aujourd'hui les lieux de culture dans le pays, quand ils vous disent on sait organiser le spectacle dans des conditions de sécurité, on y a mieux à faire que de les montrer du doigt et de leur rire au nez. Enfin, ce pays est un pays démocratique, un pays libre. Donc on doit être attentif, parce que si on n'est pas attentif à ce qui se dit, alors on ne peut pas diriger.
Jean-Luc Mélenchon, on a encore beaucoup de questions et beaucoup de questions d'auditeurs notamment. Je vous demandais si on peut être un tout petit peu plus rapide sur chaque réponse.
Je vais essayer, mais
vous avez évoqué juste les régionales. Là, vous avez cité les régionales. Les régionales en juin, ça reste l'hypothèse privilégiée, a dit le Premier ministre. En tant que chef de groupe, que souhaitez-vous ? Est-ce que vous souhaitez qu'on vote là en juin comme c'est prévu ?
D'une façon générale, c'est pas comme simplement comme chef de groupe, comme démocrate. Il vaut mieux que les élections aient lieu. Et je redoute les régimes. Attendez. Et je redoute les régimes qui prennent l'habitude d'annuler les élections. Par conséquent, j'ai pas envie qu'ils fassent trop d'expérimentations. Mais en même temps, je suis raisonnable et responsable. Si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, je ne propose pas qu'on les tienne. La dernière fois, quand il y a eu les élections municipales, le vendredi, il nous apprend qu'on confine tout le monde, mais qu'il y aura quand même des élections.
Donc là, sur cette question, vous en remettrez à la décision du gouvernement qui informations du Conseil scientifique.
C'est lui qui prend la responsabilité, il faudrait savoir ce qu'il veut. Il prend la responsabilité, il nous propose de les tenir ou pas. Ce dont je suis sûr, c'est qu'une élection n'est pas une formalité administrative. Il faut donc qu'il puisse y avoir une campagne. Peut-on organiser une campagne en période où nous sommes plutôt confinés, etc. Oui, on le peut. Prenons un exemple, que le service public de l'information organise en chaque région un débat par semaine entre les différentes listes. Ça sera aussi efficace que des meetings. Et que, en suivant les conseils qui nous sont donnés, on envoie par exemple deux professions de foi au lieu d'une seule. Et qu'on organise le jour du vote. J'ai proposé par exemple qu'on répartisse d'abord ceux qui sont les cas les plus sensibles, où il faut faire très attention, qu'on distribue des masques gratuitement à l'entrée, qu'on étage les gens, qu'on dise par exemple de AM, c'est le matin.
Pour vous, ça paraît possible. Donc avec ces conditions-là, ça
c'est
paraît possible.
Mais si la situation dégénère encore plus, Monsieur Soto, laissez-moi vous dire que je voudrais à ce moment-là examiner où on en est. Mais en tout cas, pas d'élection sans campagne électorale, ça c'est sûr.
Question de Monique sur l'application RTL. Les listes de la France Insoumise participeront-elles à un front républicain dans les régions où le Rassemblement National serait en mesure de l'emporter au second tour ?
Ça se décidera dans les régions pour une raison fort simple, comme vous le savez, c'est que la plupart du temps, nous sommes alliés, nous les insoumis, soit avec les communistes, dans trois régions, l'Île-de-France où c'est nous qui menons avec Clémentine Autain, et l'Aura, et la région Nord où nous sommes ensemble, et nous serons ensemble en Normandie. Bon. Alors, y a un partenaire. La décision se prend à plusieurs.
Et vous n'avez pas une position de principe ?
Quant au vert, eux, ils décident par région, ce qui fait qu'aucun accord national n'est possible.
Oui.
Donc, vous attendez-vous à ce que ce soit différent d'une région à l'autre. Quant à nous, nous sommes extrêmement méfiants à l'égard de ce soi-disant front républicain. Et notre habitude est de faire de la manière suivante. S'il y a un deuxième tour, méritez les voix des électeurs. Si vous voulez faire barrage à Madame Le Pen pour donner des voix à Monsieur Macron qui fait l'apologie de Pétain et de Maurras, voyez-vous, ça nous excite pas trop.
Il fait l'apologie de Pétain et de Maurras ?
Pardon ?
Il fait l'apologie de Pétain et de Maurras, Emmanuel Macron ?
Dans l'Express du mois de décembre, si vous voulez bien vous y référer, il dit que oui, Pétain est un grand militaire et Maurras un grand écrivain.
Donc
en France,
vous, Le Pen égale Macron aujourd'hui ?
Je ne dirais pas ça parce que c'est pas vrai. Parce que, comme l'a dit Monsieur Darmanin, il trouve Madame Le Pen trop molle. Donc, sans doute, Monsieur Darmanin est encore plus dur que Madame Le Pen. Par contre, pour ce qui est de faire la chasse et la police politique, il est clair que les macronistes sont plus durs. Regardez la chasse qu'ils ont fait aux universitaires sous prétexte d'islamo-gauchisme, en décidant que le CNRS, qui naturellement n'a pas accepté cette corvée indigne, aille surveiller les travaux de recherche des universités. Donc, je dis ce que tous les Français de ma famille culturelle disent, c'est qu'ils en ont tellement fait les macronistes, que franchement, la motivation pour aller voter pour eux, soi-disant pour faire barrage, n'est pas grande, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas un barrage, mais une passerelle.
Donc ça ne sera pas automatique. Il y a pas mal de questions d'auditeurs.
Non, c'est ça, exactement. J'ai peut-être été un peu long pour
vous
le
êtes
dire.
Parce que j'ai encore beaucoup de questions d'auditeurs.
Oui, mais j'essaye d'être dans la nuance aussi.
Question de Françoise, qui précise qu'elle est sympathisante la France Insoumise. Beaucoup de questions autour des multitudes de candidatures plus ou moins déclarées à gauche. Monsieur Mélenchon, qu'y a-t-il de commun entre Anne Hidalgo et vous ? Moi, je pense pas grand-chose, dit-elle.
Politiquement, à l'heure actuelle, non. l'auditrice, notre auditrice a raison. Bon, mais vous savez, il ne faut pas s'encombrer de problèmes qui n'existent pas. Jusqu'à présent, Madame Hidalgo et puis Monsieur Jadot avaient en quelque sorte tracé une ligne. Il y avait les bons d'un côté et les islamo-gauchistes de l'autre. Alors c'était... alors ils disaient, c'est pas sacrument comme ça, ils disaient, il y a des ambiguïtés. C'était extrêmement vexant. Et puis pour finir, Monsieur Jadot a pris une initiative que je veux saluer. Lui qui disait, je veux trouver un espace entre Macron et Mélenchon, a demandé à Mélenchon de venir dans son espace
dit,
à lui.
Voyons-nous, parlons-nous, voilà ce qu'il
voilà,
a dit.
Bah oui, bah alors c'est quand même quelque chose d'amusant pour moi que de participer à un espace qui va de moi à moi-même. Bon, donc je veux bien y aller, ça va de soi. Mais je veux qu'on pose les problèmes là où ils sont. Allez discuter du programme, bien sûr. Commençons d'abord par discuter de notre défense commune contre les assauts que mènent les macronistes et l'extrême droite, contre les syndicats et contre l'UNEF aujourd'hui. Entendons-nous là-dessus, il y a une réunion pour ça, elle a lieu le 7 avril prochain, elle a été convoquée par mes amis.
Est-ce que le Front commun anti-Macron pourrait être un programme suffisant pour réunir tout le monde ? Mais nous ne pouvons pas discuter.
Certainement non. En aucun cas, il ne faut faire une élection de plus contre. Maintenant, il faut construire du pour. On gagne, on applique, on a perdu, on continue. Pardon, mais je voudrais au moins terminer sur ce que j'étais en train de dire. Il n'y a pas de discussion possible sur une candidature commune aux élections présidentielles, parce que M. Jadot ne représente pas Europe Écologie Les Verts, qui a organisé une primaire. Et ensuite, parce que le Parti Socialiste a dans ses statuts le fait qu'il organisera une primaire pour la présidentielle. Dans ces conditions, ces deux partis auront leur candidat. Il faut donc travailler sur cette base, et que le peuple tranche.
Encore deux questions, vraiment 20 secondes si c'est possible par réponse.
Si je peux, oui, je ferai. Alain, pas très malin, chômeur. Faut dire.
Avec la réforme de l'assurance chômage, on va laisser crever des chômeurs et tout le monde s'en fout. Pas un syndicat, pas un parti politique pour voir que nous coulons.
C'est très injuste, hein. C'est vraiment, ça fait mal au cœur d'entendre ça. Je sais pas qui a dit ça.
C'est un chômeur qui s'appelle
Écoutez,
Alain.
On ne fait que ça.
Sur l'application.
On ne fait que ça. Quand on peut arriver à le dire dans une interview, parce que ça n'intéresse pas beaucoup les intervieweurs. Mais on n'avons pas arrêté de dénoncer. Encore tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale, écoutez mon discours. J'ai dénoncé cette réforme du chômage. C'est une catastrophe qui arrive devant nous, parce que 40% des gens vont y perdre, ils n'avaient déjà pas grand-chose. Mmh. Ne croyez pas, monsieur, que tout le monde s'en fout. Je veux vous remonter le moral. La bataille a lieu, je ne vous dis pas qu'on va la gagner, mais vous-même... Ne jetez pas des pierres à ceux qui viennent à vos côtés pour mener la bataille, réservez-les à nos adversaires, mobilisez les camarades autour de vous, voyez d'autres qui sont au chômage comme vous, agissez, secouez-vous tous, je sais bien que c'est un peu plus facile pour moi de le dire que pour vous de le faire, ne vous résignez pas.
Et dernière question, vous aimez le foot, Jean-Luc Mélenchon ?
Le quoi ?
Le foot.
Oui, oui, je regarde. Enfin, j'aime surtout le stade parce que à Marseille, c'est ce qu'il y a de plus fascinant.
Le vélodrome,
c'est plus
évidemment.
Le stade que, pardon, hein, pour les Marseillais, mais c'est plus le stade que la partie de foot qui m'a motivé chaque fois que j'y suis allé.
Bon, vous avez suivi, j'imagine, la victoire des Bleus hier soir, match qualificatif pour la Coupe du Monde au Qatar l'an
mais
prochain.
Mais monsieur, hier soir, j'étais en train de préparer le discours pour le lendemain matin, et puis je ne sais pas ce qu'ils vont encore inventer pour me pourrir la vie, Macron demain et après-demain, parce que toutes les semaines, nous avons des déclarations la nuit, le jour du président de la République qui parle. Pour ne rien dire.
Bon, mais merci. Néanmoins, certaines voix se lèvent pour dire qu'il faut boycotter ce mondial au Qatar l'an prochain, dans un pays soupçonné de financement du terrorisme. Si on veut être sérieux dans la lutte contre l'islam radical, a notamment précisé Julien Bayou, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Verte. Est-ce qu'il faut envisager un boycott du mondial au Qatar ?
Il reprend les termes de mes propres amis sur le sujet. Vous savez, vous connaissez mon âge, j'en ai vu des choses. Je me rappelle qu'on a organisé un mondial de foot en Argentine pendant qu'on torturait nos copains
78.
À l'école mécanique de la marine. Alors je ne suis pas prêt d'oublier cette période. Donc oui, s'il y avait une bataille pour le boycott, moi j'y participerais, mais j'ai pas beaucoup d'illusions. C'est une honte ce qui se fait là. 6500 personnes sont mortes sur les chantiers. C'est affreux comment ils traitent les gens. Et puis le Qatar est le financier de toutes sortes d'activités anti-françaises en Afrique. C'est-à-dire, ils participent à l'armement et à l'organisation de milices islamiques qui ensuite nous tirent dessus.
Alors, l'équipe de France ne devrait pas aller au Qatar en 2022 ?
Ah ben attendez, ça, il y a des fédérations sportives pour en discuter ouais. Et tout. Moi, je pense qu'un Français a rien à foutre là-bas. Mais après, bon, c'est moi. Et peut-être que les sportifs, eux, ils se disent « Ah ben zut, nous, c'est toute notre vie, monsieur Mélenchon. Alors vous nous dites de pas y aller. » Oui, les gars, je vous dis de pas y aller, parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres. On peut pas jouer au foot avec des violents, bornés, obscurantistes, comme ceux qu'on a là. Et ça va me valoir quelques ennuis d'avoir dit ça.
Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu ce soir. Dans
Merci de m'avoir invité.
Merci à vous, à bientôt. À suivre, l'œil de Philippe Cavrière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous allez vous aussi revenir à votre manière sur l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir.
J'ai bien écouté Jean-Luc Mélenchon. Moi, je serais moins sévère que Jean-Luc Mélenchon sur la prestation d'Emmanuel Macron. Moi, je l'ai trouvé très bien. jusqu'à la Marseillaise. Et après, j'ai été un petit peu déçu quand même. Bon, Macron s'est trouvé super. Nous, on l'a trouvé un peu moins bien. Ça fait la moyenne.
Ouais.
Et puis, il faut être positif. Alors, le chômage explose, la dette est catastrophique, l'espérance de vie a baissé, mais on a beau temps.
Mais c'est déjà
aujourd'hui,
ça.
Hein, c'est pas mal.
C'est
j'essaie
pas mal,
de positiver.
Mais ça, c'est grâce à moi. Ah ben non, ben, le mauvais temps, c'est la majorité, le bon temps, c'est l'opposition.
C'est proche qui disait ça. Moi.
Vous prenez donc déjà pour le roi soleil.
En quelque pas le roi, parce que vous connaissez mon tempérament, bon, je suis plutôt robespierriste, mais le soleil, oui. Hollande, il faisait pleuvoir, et moi, quand j'arrive quelque part, en général, il fait beau.
Des proches disaient ça, j'aime pas me vanter, mais il a fait quand même super beau aujourd'hui.
Allez, à tout de suite, Philippe.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h50, on est un peu en retard, hein, mais c'est prévu. Hein, Philippe
Cavrivière.
Eh oui, c'est déjà à vous, ça va ?
Bah, très bien, et vous ?
Bon, on est très très nombreux à attendre votre analyse de l'allocution présidentielle. En résumé, nouvelles semaines de confinement ou de freiner sans enfermer sur tout le territoire. Et le moral des Français qu'on a repris un petit coup quand même, un petit coup de pelle.
Oh Thomas, à ce niveau de déprime, mon conseil sera simple. Mater des docus sur le Bangladesh ou la Birmanie, c'est la seule façon de se dire « Oh, ben on n'est pas si mal !» Mais revenons à Macron.
Oui.
Je n'ai pas été surpris, il a évoqué un tour de vis supplémentaire. Hier, il nous a expliqué qu'il fallait prendre le virus en tenaille, des tours de vis, des tenailles. C'est plus un président, c'est Monsieur Bricolage. Prochaine allocution, il déboule en blouse bleue avec un torchon plein de cambouis. Bon, ben, c'est le joint de culasse. Il y en a pour 14 semaines de confinement. Ça va coûter dans les 40 milliards. Bref,
combien
Macron,
40 ?
40 milliards à la louche. Hein, je vous fais le devis à la louche. Hein.
Le devis va faire des petits, monsieur Cavrivière. Ouais,
bref, Macron repousse le confinement de 4 semaines. C'est pas la première fois. Il repousse tout le temps, Macron. Il repousse beaucoup plus que ses cheveux, d'ailleurs. Qu'il rabat toujours César.
Vous êtes aussi un observateur capillaire hors
aussi.
Bon, la principale nouvelle, c'est quand même la fermeture des écoles pendant 3 à 4 semaines.
On croyait que le mentor de Macron, c'était le philosophe Paul Ricoeur. Et en fait, c'est Sheila. Oh oui, c'est donc le début des grandes vacances d'avril. Alors, il y a un point curieux quand même, c'est que le président nous annonce que les écoles seront fermées pendant les vacances. Mais elles sont déjà un peu fermées pendant les vacances. C'est comme dire l'école sera fermée cette nuit. Ben oui, je sais, mais c'était mignon, mais ça change quoi ? Alors j'ai une pensée émue pour les parents qui, au moment où Macron leur a appris qu'ils en prenaient pour 3 semaines, regardaient leurs enfants casser un vase, renverser un candiop sur la banquette ou repeindre le chat persan au stabilo rose. Ça va être long, les parents, ça va être très long. Cela dit, chers parents, j'ai une solution pour vous qui faites la classe à la maison. Soyez pro et une semaine sur deux, faites comme tout bon prof qui se respecte. La grève !
Oh, le cliché. Oh là là. Alors, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon ce matin. Il a dit que le Parlement était humilié et qu'il trouvait injuste que l'opposition soit exclue de la stratégie sanitaire.
Je suis bien d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis souvent d'accord avec l'invité d'avant, par lâcheté, au cas où il reste. Cela dit, Macron a fait un petit mea culpa. Il a fait un mini culpa. Il a dit « Nous avons commis des erreurs, surtout Véran et Castex. » Alors, des pros, ils n'ont pas trouvé Macron terrible non plus. Hein. Il y avait mon Pascalou, Robert Ménard, Jérôme Béglé, Nadine Morano. « Pan, dans ta gueule, Lunef, c'est pour vos réunions semblant. » À l'heure des pros, ils font toutes leurs réunions sans noir. Ben, un partout, tiens. La balle au centre.
Alors, l'allocution présidentielle a aussi eu des conséquences inattendues, Philippe.
Oui, déjà sur vous, Thomas. Vous qui finissez toujours à 20h, vous avez bossé jusqu'à 43. Au lieu de 20h, vous avez fini à 20h43. J'espère que Régis Ravanas corrigera sur votre fiche de paye.
Le patron d'RTL. Hein.
Vous nous avez une fois de plus bluffé par la qualité de vos analyses à chaud.
Moi, je suis contre les gens qui mâchent le chewing-gum la bouche ouverte. C'est pas possible.
Très
voilà.
Vilain.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec Macron, ça.
Moi, j'ai fumé une fois quand j'étais petit, j'avais roulé une feuille de papier Claire Fontaine. Là, pour
oui, mais ça n'a rien à voir avec l'allocution non plus. Bon, il était crevé, notre Thomas. À un moment, il m'a même marié avec Valérie Trierweiler.
Merci à vous, Valérie.
Merci,
demain,
Thomas,
c'est Philippe Trierweiler.
Alors, je précise.
Tu laisses vraiment rien passer.
Mais j'écoute, je suis un auditeur fidèle. Nous ne sommes pas ensemble avec Valérie. Enfin, pas encore. Sachez que je n'ai répondu à aucun sexto de Valoche. Poisson d'avril, bien sûr. J'ai envoyé des photos de mon zizi. Celui de Benjamin Griveaux, parce que je l'ai enregistré, c'est plus vendeur.
Ouais,
mais
parlons
politique, arrêtez de tirer cette émission vers le bas, s'il vous plaît.
Bien sûr. Les déplacements interrégionaux seront donc interdits dès la semaine prochaine. Mais il y a une tolérance ce week-end, week-end de Pâques.
Oui, son Altesse nous a accordé le droit de partir dans nos résidences secondaires, en villégiature. Alors, informons le président. Il nous parle, donc parlons-lui. On n'a pas tous la baraque de François Cluzet dans les petits mouchoirs. Hein. On n'est pas tous propriétaires d'une pied dans l'eau au Cap Ferret ou à l'île d'Arrêt. Donc, en résumé, les riches pourront partir dans leur résidence secondaire et puis les pauvres, ben... rejoindront leur cuisine avec leur frigo vide, où il y aura peut-être un peu d'alcool, un deuxième cliché.
Plus dans la rue, hein, l'alcool, hein, s'il vous plaît, c'est interdit. C'est il y a aussi des bonnes nouvelles, hein. Le président a promis quelques milliers, 3000 lits supplémentaires en réa pour atteindre les 10 000.
Alors précisons que les médecins ne savent pas d'où vont sortir ces lits. C'est à croire que Macron n'est pas seulement président épidémiologiste, c'est aussi un peu ma sorcière bien-aimée. Ah, vous rappelez, alors, si vous rappelez, c'est que vous n'êtes pas jeune. Alors, oui, je pense qu'il va sûrement virer Castex.
Chaque fois qu'on est aimable avec vous, on prend un scud. En fait.
Il va sûrement virer Castex, puis engager, je ne sais pas, Éric Antoine ou Dany Larry pour essayer de faire apparaître des lits. Peut-être dans une émission du Grand Cabaret avec Patrick Sébastien.
Oh putain, c'est génial. Macron va nous faire un numéro à la Dany Larry. Il va nous faire apparaître 2000 lits. On retrouvera aussi le fils caché des Baudins, Jean Castex. Et Olivier Véran fera un numéro de seringue sur Rosine Bachelot. Il lancera des vaccins AstraZeneca sur un lit de réa qui va tourner. Ça va être génial. C'est plus dangereux que le lancer de couteau. Hein. Oui, bon. Allez, à samedi.
Tiens, pas encore à samedi. Vous parliez du vaccin AstraZeneca. Il va changer de nom. Il va s'appeler désormais Vaxzevria, je crois. Hein.
Oui, alors il change de nom, mais pas de composition. Alors moi, je dis, ça ne sert à rien. Si Pierre Ménès, demain, change de nom et s'appelle même Gisèle Halimi, bah, il continuera à mettre des mains aux fesses aux filles. Ça va se voir que c'est toujours lui.
Bon, avant de se quitter, on va quand même rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er avril.
La journée des vannes reloues, mais oui. Tout le monde a respecté une trêve de vannes reloues de Poisson d'Avril. Je n'ai pas entendu « j'ai le coronavirus !» Poisson d'Avril, c'est un cancer du pancréas. D'ailleurs, pour ce 1er avril, RTL a proposé une journée spéciale humour, regardez. Ouais. C'est original, humour, oui. 1er avril, bravo. Et pour une fois, je suis en photo sur une affiche avec d'autres géants du rire. C'est moi, je suis en photo. Alors je suis à côté de Jean-Marie Bigard, Bernard Mabie et Chantal Latsou, il y en a 2-3 vaccinés, enfin j'espère pour
ça,
eux.
Ça vous date un peu au carbone 14,
c'est
hein, quand
ça.
Même.
Je suis un peu au sommet de ma carrière, ça arrivait très vite, en même pas 25 ans. Mais c'est affiché où donc? C'est une campagne nationale, c'est dans les rues, les métros, les bus?
C'est juste sur le site RTL pendant la journée en fait.
Je ne sais pas ce qui me retient de me barrer de cette radio.
L'absence de proposition, peut-être.
Peut-être. Ouais. Bon, bah, mardi, du coup.
Allez, merci beaucoup à vous, Philippe Cavrier. Et quelques notes de musique pour une nouvelle un peu triste qu'on vient d'apprendre. La disparition de Patrick Juvet, hein, l'ex-star du Dispo. C'est son agent qui vient de l'annoncer. On reviendra évidemment sur la mort de Patrick Juvet tout à l'heure dans le journal de 19h. Vous, Philippe, on vous retrouvera samedi chez Ruquier, sur France 2.
Il
n'y
a pas samedi, il n'y a pas école samedi.
Prends les rien.
Je ne sais pas, rien, je ne fous rien. Je vous reviendrai mardi prochain.
Oui, ça, c'est pas sûr. Parce que vous avez dit sur le patron, c'est pas sûr.